On commence cette semaine une nouvelle série de 6 semaines que je vais faire en équipe avec Pasteur Tony et Marco pendant les 6 prochaines semaines avant Pâques. Une série qui s'intitule « Les uns les autres, vivre l'Évangile dans la diversité ». Nous sommes convaincus, merci, que pour que l'Église de Trois-Rivières et l'Église du Seigneur puissent grandir à Trois-Rivières, nous avons besoin de grandir dans notre amour les uns pour les autres, et tout particulièrement en le signifiant à travers notre variété de cultures qui grandit à Trois-Rivières, des gens qui viennent de toutes les nations et pour lesquels l'Église doit mûrir, prendre la maturité et apprendre à cultiver et même, j'oserais dire, à être fière de notre diversité. Je suis béni ce matin de porter une belle chemise. Je n'ai pas mis jaune pour être me pavaner. C'est un cadeau. C'est un beau cadeau qu'on m'a offert. Pourquoi? Il me communique de l'amour, de l'estime. Et c'est fait par quelqu'un d'une autre culture qui me le communique dans sa culture avec des couleurs flamboyantes, des motifs différents de ceux que vous avez déjà vus porter auparavant. Et quand je porte cette chemise, je suis fier parce que ça communique que quelqu'un d'une autre culture m'aime profondément. Il me fait faire une chemise sur mesure pour me communiquer son amour, son estime. Et donc, il y a un attachement particulier. Elle n'est pas juste belle, elle n'est pas juste douce, elle n'est pas juste faite d'un matériel de qualité. Elle me communique de l'amour. Et c'est ce qui me rend fier. Je pense que c'est une louange au Seigneur. C'est une louange au Seigneur. Il y a quelques années en arrière, j'ai été béni qu'une femme d'une autre culture nous accueille chez eux. On célébrait tout récemment, au mois de décembre, l'arrivée de deux de nos enfants qui sont arrivés de l'Ukraine il y a 11 ans et 2 mois. On était en Ukraine et on avait passé 40 jours, je crois, partis de la maison. On est revenu une semaine ou quelque chose comme ça. On est reparti et j'ai dû partir seul. Ma femme est restée à la maison avec les 7 enfants. Et je suis retourné en Ukraine pour ramener Lily Antonina, qui était tout petite, faisait 20 livres, imaginez. 20 livres à ses 3 ans. Et Manuel Anatoli, qui avait 12 ans à l'époque, notre plus vieux des garçons. Et à travers ce périple-là, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et déjà, à ce moment-là, on avait déjà vécu environ 5 mois de notre vie en Ukraine à travers l'année 2012, 13 et 14. Et toutes sortes de contacts que le Seigneur nous a amenés à travers cela. Et il y a un contact qui nous... Et je ne me rappelle même pas comment je me suis rendu là, mais à travers un contact de quelqu'un d'autre, on a été offert d'aller vivre pendant qu'on était à Kiev, au lieu d'être dans un hôtel, de payer le gros prix, etc., d'être accueilli par une dame qui s'appelle Snijana Derjanovski. Snijana Derjanovski. Un beau nom que j'ai appris à prononcer à la manière ukrainienne. Pourquoi? Parce que j'aime ce nom. C'est un nom qui communique un souvenir très agréable. Parce qu'on a été reçu, Snijana, avec ses 4 enfants, et son époux, qui ne parlait pas anglais, mais elle parlait anglais, avec amour, bienveillance, pendant 2 semaines, où ce qu'on a été aimés, nourris, et vraiment, là, je la connaissais pas. Mais elle savait que j'étais chrétien, et je savais qu'elle était chrétienne. Et elle nous a invités par la foi pour nous bénir, et ça a été une bénédiction pour moi et mes 2 enfants, plutôt que d'être seul, isolé dans un hôtel avec 2 enfants, dont une que je devais laver, prendre soin, comme un bébé qui avait 1 an et demi, tellement qu'elle était petite, Lily, avec les défis qu'elle avait. Mais je n'oublierai jamais ce nom-là, parce qu'une femme d'une autre culture qui ne me connaissait pas, mais qui avait la vie de Christ en elle, me le témoignait en me recevant par la foi, sans me connaître, et m'a accueilli chez eux, avec ses enfants, avec son mari, dans sa demeure personnelle, me nourrit chaque matin avec du kasha, du gruau que j'aurais jamais mangé autrement. C'est sûr. Mais il était bon, parce qu'il était fait avec amour. Et mes 2 enfants l'aimaient, parce que c'est culturellement ce qu'ils mangeaient. J'aurais jamais mangé ça. Mais ça m'a fait grandir de prendre leur type de gruau, qui est différent du mien, de le manger à leur manière avec mes nouveaux enfants et de recevoir cet amour, une bénédiction. Et pourquoi? Parce que par leur amour, je recevais l'amour de qui? De Dieu, de Jésus-Christ. Et Snijana est une femme qui servait son pays, entre autres, dans la communauté de Kiev, une grande communauté de près de 4 millions de personnes, qui est une province en soi-même. Elle était députée dans sa province et un an ou deux après, elle a déménagé avec sa famille progressivement, maintenant à Toronto. Et elle sert le Seigneur là-bas, toujours, parce qu'elle a toujours servi le Seigneur. Et elle continue dans notre pays ici. Snijana Derjanovski, un nom qui communique l'amour. Pour vous, un son étranger, un nom inconnu. Et pourtant, pour moi, un doux souvenir de l'amour de Christ à travers quelqu'un. Et ça, ça ne s'oublie pas. Ça nous marque, n'est-ce pas? Et peut-être, alors que je vous raconte cette histoire-là, vous avez une histoire de quelqu'un comme ça, qui vous a aimé de cette façon-là, et que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, qui n'est pas la même histoire, mais une autre histoire, mais qui est votre histoire, ou ce que vous avez reçu ou pu donner de cette façon-là. Les uns les autres est une phrase qu'on retrouve à différentes occasions à travers le Nouveau Testament. Environ 59 fois, on retrouve cette expression. Un seul mot, les uns les autres. Nous exprimons ici que l'Évangile ne se vit pas juste avec Dieu. Elle se vit aussi au vertical. Les uns avec les autres. C'est comme ça que la vie du Seigneur se vit parmi nous, dans les uns les autres. Si on dit qu'on a cette relation verticale avec Dieu, mais que ça ne s'exprime pas à l'horizontale, il y a quelque chose de pas normal. Il y a un problème de santé spirituelle. C'est anormal. Et plusieurs fois, on retrouve cette expression, entre autres, beaucoup dans les épîtres de Paul, de Pierre et de Jean, mais aussi dans les paroles de Jésus, touchant l'amour les uns pour les autres, le soutien, le service, l'unité, l'harmonie, l'encouragement, l'humilité qu'on doit s'exprimer les uns devant les autres, la pureté, l'hospitalité, l'accueil, le pardon, nommez-le, ces défis relationnels qu'on doit relever ensemble les uns envers les autres, montrant que la vie du royaume se vit dans le relationnel. Et que ces phrases, les uns les autres, sont une révélation du code relationnel dans le royaume de Dieu, de comment on vit ensemble. Et les Écritures nous donnent donc beaucoup de directions. Presque les deux tiers concernent l'amour et l'unité. Parce que c'est là que s'exprime un grand défi. Ce qui montre que la maturité chrétienne est relationnelle avant d'être doctrinale et émotionnelle. Elle s'exprime dans les relations. Les uns les autres sont une application concrète du second grand commandement dont Jésus souligne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Citant Lévitique, c'est Jésus qui en parle dans Matthieu chapitre 22, verset 39. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir aimé Dieu, tu aimes ton prochain. Il se traduit dans la pratique de la vie du corps de Christ, où Christ est la tête, où l'Esprit-Saint est le lien et où ses commandements sont l'articulation qui maintiennent le corps en bonne santé. Et donc, je commence en faisant trois observations simples, vraiment importantes, avant même de commencer sur ce que je viens de vous dire. Aucun de ces commandements ne peut être vécu seul. Les uns les autres, il faut que tu sois avec les autres. C'est-tu clair, ça? Seul dans ta maison, tu n'es pas en train de vivre les uns les autres. Il faut que tu sois avec d'autres personnes. Il présuppose une vie communautaire active et qui met à l'épreuve mon caractère chrétien. Et ça, c'est nécessaire pour grandir. Deuxièmement, ils sont réciproques. Il ne s'agit pas seulement d'être, d'aimer les autres, mais aussi de se laisser aussi aimer et corriger et encourager également. C'est pas juste moi, c'est aussi moi de recevoir également. Comme avec Snijana, qui elle aussi a été accueillie par une église, qui l'a accueillie dans son bâtiment. Alors qu'elle a immigré seule au début pour préparer le chemin et qu'une église a accueilli dans un petit appartement à Toronto où elle a été accueillie en attendant que sa famille vienne la rejoindre, elle-même ayant aussi au moins 2 enfants qui étaient adoptés. Troisièmement, ils sont culturellement universels les uns les autres. Ils transcendent la culture. Jamais le conditionnel culturel dans aucun des commandements les uns les autres. Ça, c'est vraiment important. Dans un contexte multiethnique, ils deviennent en quelque sorte la grammaire de la réconciliation chrétienne, transcendant la malédiction de Babel, où nos langues ont été confondues pour nous empêcher d'être en meute tout ensemble contre Dieu, pour briser notre unité. Mais c'est juste l'Esprit de Dieu qui peut briser cette malédiction-là et nous permettre de transcender les différences linguistiques, culturelles qui nous divisent à travers le monde entier et qui mettent des peuples les uns contre les autres en suprématie, en mépris. Et donc, voilà pourquoi nous avons cru bon de faire cette série les uns les autres et spécifiquement orientée vers vivre l'Évangile dans la diversité. On va en parler pendant 6 semaines. À part toutes sortes d'illustrations pour nous encourager, nous donner une vision et aussi que le Seigneur puisse soigner aussi des plaies, que le Seigneur puisse briser des préjugés, guérir des blessures, enlever les obstacles dans nos cœurs qui peuvent nous empêcher de grandir et de percer dans cette ville comme Église par un amour puissant parmi nous. Que les gens puissent connaître que l'amour de Christ est ici parce qu'il y a un amour qu'on ressent les uns envers les autres et envers la communauté élargie de Trois-Rivières qui est vraiment sans condition, qui dérange, qui bouleverse, qui est difficile à nommer, mais qu'on ressent quelque chose de puissant. On est dans Jean chapitre 13 et j'aimerais vous lire ici quelques versets ensemble dont en fait aussi qu'on retrouve sur la diapo actuelle ici. Je vais justement la placer pour moi-même. Et c'est Jésus dans un texte bien connu avec des dilemmes avec un Pierre fougueux dans un contexte avec un autre qui est un traître, Judas. Et Jésus dit, « Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore parmi vous. » Parce qu'on est dans les derniers milles ici, une semaine avant qu'ils partent. « Vous me chercherez. » Et comme j'ai dit aux Juifs, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Je vous le dis aussi maintenant. Maintenant. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, le modèle maintenant, c'est Jésus. « Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et le peuple de Dieu dit ensemble, Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, s'il vous plaît. Parle-nous ce matin par ta parole. Parle-nous comme tu veux. J'ai prévu des choses dans ma tête, Seigneur. J'ai écrit des choses, mais Seigneur, parle à chacun de nous personnellement. Comme tu le voudras, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts ce matin, te priant de nous rencontrer. Et nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. L'idée centrale ce matin est ceci. Tout commence ici. L'amour est le langage universel du royaume. Dans une église multiethnique, c'est ce qui unit les personnes de milieux, de cultures et de parcours très différents. L'amour mutuel n'est pas seulement strictement une émotion, mais une décision enracinée dans l'amour de Christ lui-même. C'est même le ciment de la vie d'Église. C'est ce qui cimente ensemble les briques, le témoignage visible du royaume parmi nous. Écoutez bien ce matin les Écritures sur le cœur de Dieu pour l'étranger. Juste pour vous le rappeler ici. Le cœur de Dieu pour l'étranger. Dans Deutéronome, chapitre 10, il dit « L'Éternel aime l'étranger et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'étranger. » Et ça ici, c'est dans le Deutéronome. Il est en train de répéter des choses qui ont été données dans l'Exode comme commandement et dans Lévitique. Lévitique nous dit « L'étranger qui séjourne chez vous sera pour vous comme un indigent. Tu l'aimeras comme toi-même. » Et même dans le livre de Deutéronome, de Lévitique, il dit, « Tu vas l'aimer l'étranger parce que toi aussi, tu as été un étranger à un moment donné dans ta vie. » Puis tu sais ce que c'est, cette vulnérabilité-là, Israël, quand tu es étranger, puis quelqu'un profite de toi. Tu connais ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'infériorité face au nombre qui t'engouffre. Cette crainte que tu n'oses pas trop parler. Il dit, fais-le pas à d'autres, ce que tu as vécu, cette vulnérabilité. Tu sais ce que c'est. Oublie pas d'où tu viens, toi aussi, pour l'offrir. Et Seigneur, ici, parle puissamment sur le respect et l'égard envers l'étranger pour le peuple d'Israël. L'Éternel protège l'étranger, nous dit le psalmiste. Attention de maltraiter ou de manquer d'égard envers quelqu'un que Dieu protège. Il est sous la protection divine, d'où notre besoin d'agir, de penser avec égard et respect. Vous avez ici une définition de l'action de Dieu défendeur de l'étranger. Pas seulement comme un observateur de voir, mais ici d'être directement impliqué à le protéger, les deux mains dedans. Voilà la préoccupation de Dieu. Ce matin, j'aimerais faire ces trois observations, une derrière l'autre. L'amour de Christ passe avant la culture. Aimer l'autre, c'est de comprendre et passer par-dessus les différences, pas de les changer. L'amour est la marque du disciple et devient notre témoignage dans un monde divisé. On parle ici de nouveauté, vous avez remarqué? Un nouveau commandement. Pourtant, il existe un ancien commandement. En quoi est-il nouveau? Jusque-là, la loi juive disait qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même dans Lévitique. À présent, la Nouvelle Alliance veut que nous aimions les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Maintenant, on a un modèle précis qu'on retrouve dans les Écritures. Et Jean parle, un Jean nous en parle, et c'est la manière dont Christ nous a aimés pour lequel on a un modèle maintenant, par le Messie venu sur terre, de comment aimer d'une façon sacrificielle. Tout qu'un modèle, Jésus. Ce commandement ancien devient nouveau pour nous, lorsque nous voyons qu'il se réalise dans le Messie, Jésus-Christ. Et là, le modèle, évidemment, Jésus, bien, il est non seulement le modèle, mais il est la source. C'est sa vie en nous qui nous permet, par l'Esprit-Saint, d'agir comme lui. Naturellement, on ne le fait pas. C'est lorsque la vie de Jésus, on se convertit à Jésus, que son Esprit entre en nous, que tout à coup, on est rendu capable de suivre Jésus et que cette transformation nous amène à vivre comme lui et d'aimer comme lui. Et ça se fait progressif chez le pécheur qui abandonne son péché, qui est pardonné, mais qui y revient souvent et qui progressivement prend de la maturité et gagne de plus en plus, ou ce que Christ a de plus en plus de place dans sa vie. Pensez à Jésus, comment il a interagi avec des disciples tellement différents les uns les autres. 12 disciples, il n'y en a pas un pareil. Il a fallu qu'ils apprennent à les aimer individuellement, tous avec un différent background, une différente éducation, une différente culture familiale, d'une différente région d'Israël. Un qui va le trahir, un qui est impétueux. Ils veulent être grands, ils se chicanent sur qui va être le plus grand. L'autre qui a de la misère à croire, l'autre qui est comme ci, l'autre qui est comme ça. Les deux qui se picochent tout le temps, les deux frères, les autres deux frères qui picochent contre les deux autres. Puis qu'ils aiment. Et comme un parent s'adapte à chacun de ses enfants, il doit ajuster aussi sa manière éducative entre chaque enfant avec son tempérament. Jésus a aimé ses 12 disciples de cette façon-là, en s'adaptant à chacun de ses disciples, son tempérament, pour l'éduquer, l'accompagner et en faire un disciple de Jésus. Il s'est adapté à chacun d'eux, Jésus. Pensez aux interactions de Jésus. Ah oui, il a nourri les 5000. C'était des Juifs. Mais il a traversé l'autre côté de la rive. L'autre côté du lac, où ce que c'était pas des Juifs. Et là, une foule de 4000 qui ont été avec lui pendant 3 jours. Et Jésus fait la même chose. Il les a nourris, cette foule-là, sans compter les enfants et les femmes. Des milliers de personnes. Ce n'était pas juste pour les Juifs. Jésus aussi de l'égard pour le non-Juif, l'étranger de l'autre côté, ou ce qui s'en va chez eux. Et devant cette multitude qui l'écoute, qui ont soif, Jésus les aime et il les nourrit. Ça devait être quelque chose, être là, être témoin de ça. Jésus s'en va dans le nord du pays, dépasse elle, il voit cette femme syrophénicienne qui quémande d'avoir juste les graines qui tombent de la table, les miettes de pain, Va les prendre, Seigneur. » Et qui loue cette femme pour son humilité. Et qui acquiesce à ta demande. Cette femme syrophénicienne, une étrangère. Jésus a rencontré plusieurs étrangers. Luc prend même la peine devant la culture juive qui méprise les Samaritains. Trois fois dans Luc, il va mentionner les Samaritains. Les voisins dégueux, là. Qui sont pas comme nous autres, puis qui ils font pas les affaires comme nous autres, puis ils lisent pas les bons livres, ils en ont ajouté par eux autres. Oh! Il y avait du racisme. Et c'est qui le personnage qui va prendre soin de la personne blessée sur le bord de la route alors que les religieux passent à côté? C'est qui va le faire? Le bon Samaritain. Jésus, il est en train de faire une leçon, vous comprenez? Celui que tu méprises, c'est lui qui agit avec bonté puis qui met en pratique d'aimer son prochain comme Dieu le demande. C'est celui que tu méprises. Et des fois, le Seigneur nous fait la barbe comme ça. Hein? Vous comprenez l'expression de se faire la barbe? Hein? Il nous fait une leçon en utilisant quelqu'un qu'on méprise qui nous montre un comportement qui déshonore notre attitude et qui nous humilie à voir que la personne que je regarde de haut se comporte plus spirituellement que moi. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Jésus, pour donner une leçon aux Juifs. Et combien de fois quelqu'un d'une autre culture, des fois, qu'on peut regarder avec un regard de haut, démontre une attitude, ouf, qui nous humilie profondément, avec beaucoup moins de capacité financière que nous, et qui démontre une grande générosité, une attitude humble, peu importe quoi. Et le Seigneur nous fait des leçons comme ça pour briser notre attitude qui est pleine de préjugés. Jésus s'y attaquait dans l'Évangile de Luc et Luc embarque là-dedans en soulignant plusieurs fois les Samaritains et leur accueil même de Jésus lorsque les disciples ont passé par là. C'est intéressant, c'est pas des détails anodins ici. Un prédicateur que j'apprécie a résumé ceci. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a institué l'Église locale, l'Assemblée des croyants. On ne peut pas rester chrétien tout seul dans son coin. On ne peut pas mener une vie chrétienne complète et épanouie si on n'est pas en communion avec le peuple de Dieu. La vie chrétienne comporte deux relations, la verticale avec Dieu et l'horizontale avec les hommes. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, ces deux relations. Chacun de ces relations doit se caractériser par un amour réciproque. Deuxièmement, l'amour de l'autre, c'est de comprendre et passer par-dessus les différences plutôt que de changer l'autre. Vous savez, négliger l'amour serait une des pires erreurs, car l'amour fraternel est l'expression de notre communion avec Jésus dans la Nouvelle Alliance. Non de tenter de changer l'autre et de l'assimiler, mais d'aimer l'autre en action, de s'adapter à lui et de tenter de comprendre. Et Paul nous manifeste, c'est quoi l'attitude qui va nous aider à aller là? Quand il parle dans Philippiens, chapitre 2, de l'humilité de Christ, l'humilité qu'on doit avoir, il dit ceci, Paul, « Ne faites rien par rivalité, donc en compétition. C'est qui est le meilleur? C'est qui a raison? C'est qui fait mieux que l'autre? » Rien par vaine gloire. Ah, nous autres, on fait bien mieux ça que les autres. Ah, nous autres, là, tu sais. Puis là, présentement, il y a de ça, hein. On est dans les Olympiques, hein. C'est sûr, hein. Nous autres, les Canadiens, on va gagner au hockey, hein. C'est sûr, on est fiers, hein. Non, embarquez pas dans cette rivalité, cette vaine gloire. Donc, une gloire qui est, dans le fond, futile, qui est superficielle. Mais avec humilité, estimez. Ou on pourrait traduire « considérez les autres supérieurs à vous-même ». Ouf! Disons-le tous ensemble. Un ouf du Saint-Esprit. Ouf! Ouf! C'est pas facile, ça, hein? Ouf! Je vais le répéter, juste au cas où vous n'avez pas compris le ouf de Dieu ici, là. Mais avec humilité, estimez, considérez les uns les autres supérieurs à vous-même. Ouf. Si vous trouvez ça facile, en tout cas, moi, je ne trouve pas ça facile. Mon orgueil, mon égoïsme, mon ambition me met des bâtons dans les roues, me fait trébucher continuellement pour mettre ça en pratique. Amen? J'ai besoin du Saint-Esprit. Priez pour moi. N'est-ce pas notre défi, hein? On s'estime plus que les autres. On a de la misère à estimer l'autre comme plus important. Mais si l'autre est plus important que moi, tout à coup, il y a plein de choses qui deviennent superficielles, qui deviennent secondaires. Parce que l'autre est plus important que j'aie raison, que j'aie ce que je veux. Le bien-être de l'autre, qu'il se sente aimé, respecté, estimé. Et pas juste que moi, j'ai ce que je veux ou ce que je m'attendais. Quel défi! Et vous savez, dans le contexte actuel, il y a Pierre là, qui va prétendre, le verset 36, 37, 38, là, puis là, il va le reprendre, il dit, tu vas me renier, Jésus doit l'aimer. Il doit aimer aussi celui qui va le trahir là, prochainement. Judas, il est là dans le contexte hein, qu'il parle de tout ça ici. Là. Celui qui se pense meilleur, puis qui va se planter. Il lui annonce, il sait tout ça, le Seigneur. Et il nous invite à faire comme au verset 1 du chapitre 14 devant nous, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est en y faisant confiance qu'on arrive à faire ça. En moi-même, j'y arrive pas de relever ce défi-là. Quel défi! Vous savez, on a un mécanisme de défense. Un des défis, c'est que on a du vécu. Ou on a entendu parler de quelqu'un qui a un vécu avec une personne de telle culture, qui a vécu telle chose. On a des préjugés avec lesquels on a grandi dans notre famille vis-à-vis l'homme blanc ou l'homme noir. Comme mon fils, ça me dit, non, je suis pas noir, je suis brun. Hein? Toute une question de perspective. Et on grandit avec des préjugés inculqué par nos parents, nos grands-parents, notre culture vis-à-vis l'autre. Le racisme n'a pas une couleur, les amis. Il se trouve dans toutes les cultures et toutes les couleurs. Il s'invite dans tous les foyers et il se bâtit sur des expériences. Ah, telle personne a fait ça. Eux autres sont comme ça. Ah, telle personne a fait ça. Eux autres sont comme ça. Ah, puis une personne m'a raconté une histoire qui a vécu au travail avec telle personne. Puis on a plein d'appréhensions liées à du vécu ou du entendu qui nous bloque et qui est facile à s'enfarger dedans et qui nous bloque à faire confiance à Dieu pour passer par-dessus ce défi. Et c'est une des choses qu'on fait ce matin, prendre un temps pour demander au Seigneur de guérir ça, de confesser ça. Parce qu'on est une humanité brisée, pécheresse. Prenons-le pour nous-mêmes, pas pour l'autre au bout de la rangée, là. Pour moi-même, comme un avertissement. Est-ce que j'ai des mécanismes de défense? J'ai peur qu'on profite de moi. Ben oui, il y a des gens qui ont profité de la bonté des autres. Oh! Fait qu'ils vont profiter de moi si je suis trop gentil avec eux. Si je suis trop généreux avec eux, ils vont profiter de moi. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je me donne ça comme excuse pour ne pas être généreux. Mécanisme de défense. Mais le mécanisme de défense, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient court-circuiter ma foi. Il court-circuite l'amour et la bonté que Dieu veut que j'exprime. Il court-circuite une bénédiction pour moi et pour l'autre sur la base d'un vécu. Il faut l'identifier. Il faut être honnête parce que ça vient facile à s'enfarger dans tout ça qui s'accumule dans une vie. L'amour, vous savez, ultimement, c'est la marque du disciple qui devient notre témoignage puissant. Au milieu d'un monde divisé, les gens ont besoin de voir une église multiculturelle qui est unie, avec le même type de monde, mais dans laquelle la vie de Jésus est présente. Et que cet amour-là témoigne que cette vie est vraie, puis que quand on s'est trompé, quand j'ai sorti mes vieilles habitudes, mes vieux préjugés, bien, je suis capable de dire hey, « je te demande pardon ». Il y a quelqu'un, puis c'est pas un excuse, j'ai vécu telle affaire à une époque, ça me laissait un mauvais goût, puis à cause de tout ça, tu sais, mais Jésus, c'est mon protecteur. Je veux pas vivre dans le passé, je veux pas vivre avec ça. Je te demande pardon d'avoir manqué envers toi. Vous savez, qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça? De l'autre côté, il y a quelqu'un qui va être content de te pardonner, mais tu ne le sauras pas jusqu'à temps que tu le confesses. Par la foi, de, je dois demander pardon. Et de vivre, d'être honnête. Et ça, ça témoigne d'une vie incroyable. Et ça a un impact dans notre société incroyable. Ça peut être illustré, par exemple, par un orchestre avec des instruments différents. C'est beau quand il y a un orchestre, il y a différents instruments, n'est-ce pas? Quand il y a juste un instrument, ça peut être beau, mais c'est pas pareil que quand tout le monde joue en harmonie, chacun a sa place. Vous savez, le corps de Christ qui aime, chacun qui agit dans son domaine de rayonnement par la foi, c'est un orchestre qui a un impact dans sa ville. C'est une ruche d'abeilles, une ruche de fourmis qui, chacun avec son rôle, permet d'avoir une grande colonie qui se répand et qui est contagieux et qui a un impact et qui grossit. Parce que le manque d'unité nous empêche de grandir. L'unité contribue à la croissance. J'aimerais qu'on lise ensemble un autre texte clé. Dans 1 Jean. Allons ensemble dans 1 Jean. Chapitre 2. Cette semaine, dans ma préparation de message, on est revenu d'un voyage de vacances très, très tard, mardi matin, à 5 heures du matin à la maison. Ça fait trop, j'avais pris 3-4 nuits pour s'en remettre d'avoir manqué une nuit. Et vendredi, toute la semaine, je priais, Seigneur, je suis en train de me préparer chaque jour, mais la réunion annuelle, elle s'en venait. Puis, Seigneur, il y a des choses qui sont sur mon cœur, mais je ne sais pas quoi utiliser pour en parler, etc. Et vendredi matin, je suis ressorti vraiment encouragé de mon temps avec le Seigneur. Toutes les réponses, les questions que j'avais me sont sorties là dans mon temps avec le Seigneur. C'est tout sorti, là, tu sais. Dont ce texte-là aussi, qui pour moi, c'était comme, OK, Seigneur, c'est là que tu veux m'amener dimanche matin. C'est là que tu veux que j'amène le peuple de Dieu dimanche matin, entre autres. J'aimerais vous lire les versets 9 à 11 en particulier, qui vont comme suit. Celui qui prétend à être dans la lumière, donc évidemment qui a reçu la vie de Christ, qui est la lumière du monde, tout en haïssant son frère, il est toujours dans les ténèbres. Ça ne marche pas. Le mot ici, haïr, c'est miséo. Hein? Misogyne veut dire détester les femmes, miséo. Alors, c'est le verbe qu'il y a là ici, de détester. C'est pas normal. La vie de Christ, la lumière, aime, elle déteste pas. Puis là, il va parler de frère. Qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a rien en lui pour le faire trébucher. Soulignez ça, okay, s'il vous plaît, là. Il n'y a rien en lui pour le faire trébucher. Ça veut dire qu'il n'y a pas un obstacle sur le chemin qui va se faire planter ou même contribuer à le faire tomber lui ou faire tomber d'autres personnes également. Il n'y aura pas un piège, une canne d'injambe, un obstacle. Donc, on parle de quelqu'un qui va vivre de la stabilité dans sa vie chrétienne. Ça me fait penser au texte un peu plus loin, dans 2 Pierre, chapitre 2, 1. 2 Pierre 1, verset 10, il parle justement des mêmes termes un peu pour parler de celui qui grandit. Puis si tu grandis, tu vas avoir une stabilité dans ta vie. Il utilise ici que celui qui aime, ça amène de la stabilité dans sa vie. Il témoigne la cohérence que la lumière, elle est là, et non l'incohérence qu'il y a encore d'obscurité quand il dit « dans la lumière ». Et regardez les bienfaits, mais qui est son frère se trouve dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et là, le désavantage, il est aveugle de ses yeux, il ne voit pas clair. Parce que la haine aveugle. Mais l'amour, elle, ouvre les yeux. L'amour amène de la stabilité. La haine amène une manière de trébucher dans ta vie, de l'instabilité, un problème de croissance dans ta vie. Mais tu es aveugle, tu ne le vois pas. Tu blâmes les autres, excepté toi. La haine de mon voisin qui m'a fait quelque chose, la haine de quelqu'un de ma famille qui m'a fait quelque chose, la haine d'une personne d'une autre culture qui m'a fait quelque chose, bloque la croissance dans ma vie, affecte ma relation avec Dieu et favorise que je trébuche dans ma vie spirituellement. Le contraire, c'est quand l'amour est déployé, j'ai Dieu comme protecteur. Lui va me protéger de l'abus d'aimer. Lui va me donner le discernement. Lui va me donner la joie de voir qu'est-ce qui se passe quand que j'aime et de voir les bénéfices, de me réjouir et de vivre sa paix. Est-ce que tu as la stabilité de Dieu dans ta vie parce que par la foi, il cultive et tu acceptes par la foi d'aimer, même quand c'est dur? Même lorsque c'est dur. C'est des paroles extrêmement puissantes et qui devraient nous troubler, nous brasser sérieusement. Je lisais l'histoire d'un aveugle qui marchait et quelqu'un observait de loin, quelqu'un qui s'en venait dans le noir, puis il trouvait qu'il marchait drôlement, puis le plus qu'il s'approchait, il s'est rendu compte que c'était une personne aveugle qui marchait avec une flashlight. Il y en a qui commencent à allumer, là, ici. Hein? Il s'est dit, mais pourquoi un aveugle marche-t-il dans le noir alors qu'il ne voit pas? C'est une bonne question. Il fait noir, tu n'as pas besoin d'une flashlight pour avancer, tu as une canne. Et il a demandé à la personne. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour les autres, pour que les autres me voient et que les autres ne trébuchent pas sur moi. Est-ce que vous comprenez? Que les autres ne trébuchent pas sur moi parce que je n'ai pas de lumière. Et c'est facile par mon comportement que les autres trébuchent sur moi et que je m'endorme à penser que je suis dans la lumière, mais que je ne vois pas clair et que je suis dans les ténèbres. Mais c'est moi l'aveugle. Et qui fait finalement tomber d'autres par mes paroles, la contagion de mes attitudes, le mépris de ne pas saisir des opportunités d'aimer et d'avoir un impact puissant dans ma ville, dans mon entourage, dans ma famille. Mais oui, aimer comporte des risques. Aimer va toujours comporter des risques. Jésus a aimé un homme qui l'a trahi. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Que le Messie aime quelqu'un qui le trahirait. Est-ce que c'est possible que Dieu aussi, ce soit sa volonté que par la foi, j'aime quelqu'un qui va me trahir, que ça va me faire mal, mais c'est une occasion pour moi de faire confiance à Dieu que c'est suffisant d'avoir Dieu comme protecteur pour moi et je n'ai pas besoin de me protéger moi-même par mes mécanismes de défense et de m'empêcher d'être obéissant à Dieu et que Dieu est mon suffisant défenseur pour agir par la foi et aimer. Jésus le fait. Hé, hey, pire que ça, vous savez quoi? Je vais vous en dire une. Jésus m'a aimé. Et quelle déception j'ai été pour lui souvent. Et pourtant, il savait tout ce que j'allais faire. Je ne comprends pas ça, moi. Ça m'échappe complètement. Dieu savait tout ce qui serait dans ma tête, mes actions. Même après m'être converti à lui, il m'aime quand même. Il a pris le risque de vous donner 6 pasteurs pécheurs. Mais je regardais André surtout, là. Juste ça de même, là. André, il sait que je l'aime tellement qu'il n'est pas inquiet. Dieu a décidé. Ah, c'est ça, hein? On est unis dans le conseil. On pense les uns aux autres. Hein? Dieu a placé 6 pasteurs anciens pécheurs. Vous pouvez décider de vous protéger vous-même, ça serait logique, honnêtement. Comment faire confiance à un humain? À moins que la grâce de Dieu soit là. À moins que la grâce de Dieu soit parmi nous. Comment faire confiance à l'autorité humaine? À moins que Dieu soit dans ma vie. Je ne peux pas faire confiance à un humain. Comment faire confiance à l'homme ou la femme avec qui je vis, qui va me décevoir et dont aimer va me coûter quelque chose, que je vais être déçu, blessé, qui peut me reblesser sur quelque chose, qui sait déjà qu'il m'a blessé. Sans la grâce de Dieu, pour aimer et voir comment Dieu m'aime, je ne pourrais pas aimer comme ça. C'est juste la grâce de Dieu. On l'a chanté ce matin, combien de chants sur l'amour de Dieu et sa grâce. C'est ça qui fait toute la différence. Toute la différence. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais ce matin, j'aimerais entre autres vous parler de quelque chose et j'ai quelqu'un que j'ai invité aussi pour en parler. On a un petit livre comme ça qui s'appelle « Tu es différent et moi aussi », écrit par une femme qui s'appelle Sarah A. Lanier, une femme qui a traversé le monde à plusieurs occasions et qui écrit ce livre sur les cultures différentes qui s'appelle « Se comprendre entre étrangers, l'un pour l'autre dans sa culture ». Un petit livre qu'on a 10 copies qui circulent dans nos leaders de groupe maison et qu'on a encouragé nos leaders de groupe maison de lire ce livre et d'en parler et de le partager autour de nous. C'est un livre qui nous sensibilise aux cultures chaudes et cultures froides à travers le monde entier. Quand on parle de culture froide, on parle de culture, par exemple, urbaine, nord-américaine, axée sur la performance, qui sont faire les choses. Et les cultures chaudes qui sont, évidemment, dans un tempérament, pas un tempérament, mais dans une culture aussi où que souvent il fait plus chaud, plus rural, souvent plus tribal même, où ce qu'il y a un accent beaucoup plus grand sur les relations. Et c'est sain. c'est très sain. Et comment, venant de différentes sphères du monde, on se retrouve souvent dans une de ces deux sphères-là, et comment ces deux sphères-là ne se comprennent pas souvent, et comment ça se manifeste dans plein de dimensions de nos vies. Par exemple, ici, vous allez trouver ça, ceux qui sont arrivés de l'extérieur d'une culture chaude, on peut paraître assez sauvage. Parce que tu ne te fais pas inviter, parce que tu ne peux pas non plus juste te présenter chez quelqu'un comme ça à n'importe quelle heure de la journée. Alors que si tu es en Haïti, si tu vis en Afrique, il est tout à fait naturel que si tu es un célibataire, que tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire, tu as fini le travail, ben que tu ailles te promener chez quelqu'un et dire « Ah, la madame est en train de faire la nourriture et tu vas t'asseoir là, puis elle va continuer à faire sa nourriture. » Puis c'est normal que tu te présentes là à n'importe quelle heure, qu'on t'accueille. Et qu'on va continuer à faire ce qu'on a à faire, pas pour être impoli, mais parce que je continue à faire ce qu'on a à faire, mais je t'accueille, puis qu'il n'y aura pas un célibataire qui va se retrouver tout seul dans son coin, mais qu'on accueille facilement la famille. Si tu fais ça ici, à Trois-Rivières, je serais gêné. Ça ne passera pas. Il faut que tu prennes un rendez-vous en milieu urbain. Hein? Parce que là, tout le monde est tête en horaire, tout le monde est pressé, tout le monde n'a pas le temps. Hein? Puis il faut que tu prennes un rendez-vous, on se prend d'avance. C'est lourd. Puis ça peut être fret. Effectivement. Culture chaude, culture froide. Et là, la personne qui vient de l'extérieur dit, coudonc, ils sont bien impolis, c'est bien froid. C'est une autre culture complètement différente pour laquelle ça, c'est naturel chez nous de se comporter comme ça. Puis même, tu montres ta bienveillance, ton respect par prendre un rendez-vous pour ne pas être dérangé, puis pas venir à n'importe quelle heure. Peut-être que ça ne t'adonne pas bien. Pour nous, c'est une expression de respect de faire ça. Mais pour l'autre, c'est le contraire. C'est le manque d'hospitalité de faire ça. C'est de manquer de dégâts pour l'autre, de l'accueillir quand il vient à n'importe quelle heure. C'est ça, être respectueux. Deux cultures différentes, deux manières différentes d'exprimer le respect. Et là, on peut se sentir exclu, on peut se sentir que les gens ne sont pas hospitaliers, pas intéressés à nous, et se sentir froidement accueillis, littéralement. Et le livre nous aide à parler de tout ça, de parler de ces défis culturels, par exemple relationnels. Le deuxième chapitre parle de le désir relationnel contre le besoin d'efficacité. On met beaucoup d'accent sur la performance, sur l'efficacité. Fait que donc, si tu me parles au travail, parle vite. C'est pas le temps de faire des politesses, là. Parle-moi ça vite. Fait que là, t'es acculturel. Si t'es chez Costco, il y a une gentille dame qui est en train de servir des petites choses à goûter. Puis là, tu t'arrêtes, tu la regardes faire, tu regardes son nom. Bonjour, Madame Marika, ça va bien? Elle va te regarder, c'est pas un Québécois, ça. D'où tu viens, toi, là? Il n'y a personne qui m'a dit ça aujourd'hui, là. Hein? Parce que les 50 autres qui sont passés avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont parti. Mais là, regardez ton nom. Bonjour, ça va bien. Mais que c'est agréable quand quelqu'un fait ça, s'arrête. Bonjour, ça va bien. J'étais au Mexique récemment en vacances, puis il y a une dame qui fait les œufs tous les matins. Des centaines, des milliers d'œufs le matin. Juste de hola, comment estás? Bien et tout? Hein? Puis là, quand elle a fini les œufs, elle dit, que Dios te bendiga. Ah, tout en bien. Toi aussi, je te souhaite que Dieu te bénisse. Là, tout à coup, peut-être c'est la seule personne qui a dit ça ce matin-là. Comment ça va? Pas juste, je veux que tu me donnes des œufs, puis let's go, dépêche. Puis mets tout ce que je t'ai demandé dedans. Ouais, mais c'est normal, j'ai payé pour. Voyons. C'est normal, là, ah ouais, il y a du monde, là, puis... Non, non, non. Il y a une personne créée à l'image de Dieu. Il y a une personne qui a une famille, qui s'est levée de bonne heure, puis qui veut te servir, puis qui veut pas juste te servir, mais qui veut un égard humain. Et nous, facilement, en Amérique du Nord, c'est la tâche, la performance, j'ai payé un service, je le reçois, tu arrives chez Rona, elles sont où les vis? Puis de temps en temps, tu en as un fendant, puis qui fait bien, il dit « Bonjour, ça va bien? » Puis là, tu dis « Oui, c'est que ton problème. » Ben non, il veut juste te signaler « Sont où les vis? » C'est peut-être un peu sauvage, finalement. C'est un humain. « Bonjour, hey, ça va bien? Hey, écoutez, je cherche les vis. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Ça coûte-tu cher, ça? Hey, bonjour, ça va bien? » Je suis en train de faire une rénovation chez nous, j'aurais besoin de conseils. Vous auriez un moment? Ah, oui, monsieur. C'est-tu si dur que ça? Hein? Non, mais nous autres, on ne veut pas perdre de temps de l'employeur. Question rapide, réponse rapide. On comprend, il y a l'idée aussi de respecter mon employeur, je paye de l'heure, fait que je veux être efficace. Oui, c'est correct. Mais est-ce que l'un empêche l'autre? N'est-ce pas? Fait que là, les communications brèves, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu bête, c'est un peu sec. Hein? Fait que la personne extérieure, écoutons, je suis juste utilitaire. On a des manquements en Amérique du Nord aussi à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il y a moyen d'être efficace et pourtant d'être humain. Hein? Et ça, vis-à-vis l'un l'autre, hein, n'est-ce pas? On a du travail à faire. C'est bon de s'auto-critiquer. C'est bon aussi pour la personne de l'autre culture de comprendre les différences, de ne pas le prendre personnel, même s'il peut avoir des manquements face à votre culture, que ce n'est pas personnel. Mais en même temps, nous, on peut faire mieux, n'est-ce pas? Hein, un sourire, un égard. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai invité Idrel à venir. De temps en temps, j'ai invité les invités. Viens, Idrel, s'il vous plaît, un petit instant. Donnez un exemple d'un défi culturel et comment ça peut se vivre parfois. De temps en temps, j'ai invité Idrel ou Ghislain, juste à prendre des escaliers ici. Oui, accueillez-la chaleureusement, s'il vous plaît. Merci, Idrel, de te prêter à cet exercice. Je te donne la parole.
Bonjour tout le monde. Je suis Idrel. Je vais vous présenter deux exemples que Ghislain et moi, on a vécu ici. Le premier exemple, c'est celui de Ghislain. Il venait d'arriver en 2016 et il a été invité par une collègue pour prendre un souper, un dîner avec des amis. Et à son arrivée, tout le monde était en train de manger des légumes crus. Il était choqué. Mais parce que dans notre culture, on ne peut pas frustrer celui qui nous a invités, il s'est forcé de manger. Et aujourd'hui, il commence à apprécier, mais il était très choqué, surtout pour les céleri. C'était très difficile.
Ah, le céleri, il m'en a parlé, le céleri. C'est encore difficile, le céleri. Là. Des fois, il y a des cauchemars sur les céleri, là, des fois. Là. Priez pour Ghislain, pour le céleri. C'est encore du cheminement. Si vous voyez prendre un céleri dans un repas communautaire, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait prendre, le céleri. OK? Excuse-moi, continue.
Et le deuxième exemple, c'est moi qui l'ai vécu. J'ai invité une amie québécoise à la maison et j'avais fait un repas typiquement camerounais. Et elle était curieuse, elle voulait savoir. Naturellement, j'ai proposé. Et quand elle a vu la sauce, la soupe, la première réponse était « cette soupe a du caractère. » Parce que la sauce est gluante. Il s'agit, pour ceux qui connaissent, de la sauce gombo. Donc, elle a goûté et elle m'a dit « Ah, j'aime pas, là, je peux pas. » Et elle a repoussé. Ça, on ne peut pas le faire chez nous, mais elle a fait. Et c'est une surprise, je l'ai bien compris, je l'ai bien pris. Allez, bon dimanche.
Merci beaucoup, Idrel. C'est si simple, hein? On n'aurait pas pensé ça? Ben oui, des légumes crus. Dans une autre culture, ça peut être étranger pour eux. On n'aurait jamais pensé ça. Jusqu'à temps qu'on me dise ça, j'avais... Hein, c'est vrai, c'est d'habitude, c'est vrai, c'est cuit. C'est... Une autre manière de manger les légumes et qui pourtant peut être... Et là, comment l'autre répond à ma cuisine? Oui? Puis comment le faire sans offenser l'autre alors que nous, on peut dire, « Ah, ça n'est pas bon. » Moi, chez les enfants chez nous ont appris à dire, « C'est pas mon préféré. » Ça, c'est la manière de dire, « C'est dégueulasse. » Chez nous. Quand un de mes enfants dit ça, là, j'ai compris ce que ça veut dire. Hein? On leur apprend à le dire poliment. C'est tout un défi, juste alimentaire, n'est-ce pas? Comment passer par-dessus mes préférences être poli. Je n'ai pas besoin de mentir. Mais pas non plus faire une... La personne de l'autre culture peut comprendre aussi que peut-être ça ne peut pas faire à tout le monde, mais je vais faire un effort. Hein? Je vais faire un effort quand même pour manger, apprécier, communiquer. Merci, je suis content d'avoir goûté quelque chose de différent, même si je n'ai pas trippé ou aimé le mettre, et vice-versa. Comment exprimer l'amour de Dieu dans un exemple aussi simple que le manger comme ça? Je me rappelle, et peut-être que je termine avec cette dernière histoire-là avant d'atterrir ce matin. Mais mon père, on était à Chibiamo, et il y avait, tu sais, à Chibiamo en 1985, il n'y avait pas grands étrangers. Tu comptais sur une main, on les connaissait toutes en ville. Sur 10 000 personnes, tu savais tout de suite, la seule famille latinose, la seule famille de l'Inde, puis la seule famille qui était noire en ville. C'était comme ça à l'époque. Hein? Et là, il y a une famille qui arrive de l'extérieur, Bailly. Et là, ils nous invitent, pour une raison quelconque, je ne sais pas comment ça s'est ramassé demain, mais notre famille, ils se ramassent l'élu, qui vont manger chez les Bailly. Oh, les lapières chez les Bailly, toute une autre culture, la nourriture, et toutes nos faces trahissaient nos sentiments. Oh! Mon père était gêné. C'était la première fois. Ma mère était déstabilisée complètement. Je ne savais pas comment apprécier. Mon père, lui, il se forçait, il arrivait. Puis là, nous autres, on était tous sans sous-dessus. C'est quoi qu'on va prendre dans tout ça? Parce que, il me semble, rien, je mangerais. Là. Je ferais un jeûne et prière à soir, mais ce ne serait pas spirituel. Tu sais, là. Honnêtement, on a été complètement désarmés comme famille. Mon père a été humilié profondément. On ne savait pas comment réagir à comment gérer une nourriture étrangère, puis passer par-dessus mes sentiments personnels, mes impressions, et d'essayer. Aujourd'hui, Dieu merci, on a pris plus de culture, ma femme m'a beaucoup aidé aussi. Aujourd'hui, j'apprécie le borscht ukrainien, par exemple, la nourriture créole. J'apprécie, j'ai goûté des riz africains. Oh, splendide! En goûtant, on apprend à tranquillement apprécier les épices, les choses. Mais il faut essayer, les amis! Il faut faire des expériences. Risquez-vous un peu, puis parlez à votre face. Puis gérez votre face pour le nom de Jésus. Amen. Pour le nom de Jésus. J'aimerais terminer d'une façon pratique, juste trois observations. Cherchons à comprendre les différences culturelles plutôt que les juger avec mes standards. Apprendre à avoir l'autre comme Christ le voit et de l'aimer sans vouloir corriger cette personne-là dans sa culture autre. De comprendre. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être d'accord avec toutes les pratiques culturelles. On a tous des pratiques culturelles qui peuvent être questionnables parfois au niveau éthique. Mais si je comprends d'où vient l'autre, je peux lui donner de la grâce. Et moi, j'ai besoin de grâce de la part de l'autre aussi. Vous voyez? Si chacun fait son bout de chemin par l'amour de Christ qui est en nous, on peut passer par-dessus le différent pour apprécier, goûter et savourer une communion qui va devoir passer par un repas peut-être qui ne sera pas de ton goût. Mais derrière le repas, une relation, une communion que tu n'as jamais connu autrement et que tu ne pourras pas connaître autrement si tu ne transcendes pas ce différent par amour pour Jésus. Invitons les personnes d'autres origines à nos tables. Prenons le risque, conversation, s'intéresser, poser des questions. Poser des questions, poliment. Les gens sont heureux de vous expliquer pourquoi dans leur pays ils font ça, comme ça, puis etc. Puis qu'il n'y a pas juste des bananes dans la vie. Il y a du plantain aussi. Hein? Ben oui. Puis quand c'est frit, ça peut être très intéressant. Hein? Mais si tu ne l'as jamais appris, tu vas faire une banane frite. Et pourtant, Dieu l'a créé, le plantain aussi. Hein? C'est juste que tu ne le connais pas. Hein? Prioriser les relations à la préférence relationnelle. Pourquoi? Parce que l'autre est aimé de Dieu, que l'autre est créé à l'image de Dieu et que de l'aimer, c'est d'aimer Dieu. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Oui, applaudissez le Seigneur. Faisons de l'amour notre premier langage afin que nous puissions grandir sans se diviser. grandir, c'est difficile. Parce que plus qu'on grandit, plus qu'il y a des potentiels de différents entre nous qui amènent la division. Les églises se divisent facilement. On est chicanier, l'humain. Ça demande vraiment l'Esprit de Dieu entre nous pour pallier nos manquements, se faire grâce les uns aux autres et que l'amour soit notre premier langage. Pas ce que je veux ou ce que l'autre veut. Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est ça qu'on veut. Vous savez, c'est un apprentissage, ça. Les statistiques nous ont appris que pour qu'un couple passe du « je » au « nous », ça prend en moyenne 7 ans. Ça veut dire qu'il y en a que ça prend toute leur vie, puis il y en a que ça prend 1 an. Il y a une moyenne de 7 ans. Ce que ça dit aussi, il y en a gros qui ne se rendent jamais là, fait qu'ils ne se rendent pas à 7 ans. C'est un processus de penser en termes de « nous » et puis en « je ». Et culturellement, comme Église, nous aussi, c'est un processus. Soyons gracieux les uns envers l'autre pour qu'on puisse grandir à passer au « nous ». Qu'est-ce qui est bon pour nous? Pas qu'est-ce que moi, je préfère. Le « nous », le collectif, est vraiment important si on veut grandir et avoir un impact dans notre vie. On va prier le Seigneur. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Et j'aimerais dans ce temps de prière, entre autres, adresser le défi des blessures ce matin. Terminez avec moi dans la prière avec un cœur concentré. Que le Seigneur puisse nous aider à atterrir tout ça ici dans le pratico-pratique. Seigneur, ce matin, on reconnaît que nous sommes humains, que c'est facile, Seigneur, heurter les uns les autres. Seigneur, je veux te demander pardon, parce que certainement à différentes occasions dans mon apprentissage, j'ai manqué d'égard envers l'autre. Et plus que j'avance en temps, le plus de situations dans le passé que je vois, où ce que j'ai probablement offensé la personne sans même le savoir à ce moment-là. Je n'ai pas su comprendre. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Seigneur, il y a des gens aussi qui ont laissé des traces dans ma vie. Peut-être des parents racistes, des amis racistes qui m'ont inculqué des visions de certaines personnes tout croche. Et qui font que telle personne... Moi, Seigneur, j'en ai eu de ça dans ma vie. Je sais que j'en ai eu, Seigneur. Et qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement de toutes sortes de façons. Guéris ça dans mon cœur, s'il vous plaît, Seigneur. Je te demande pardon pour des propos, des voix qui te déshonorent face à une autre culture. Moi aussi, Seigneur, j'en fais partie de ce défi-là. Moi aussi, j'ai grandi dans le Nord avec des préjugés envers certaines personnes. J'ai entendu des choses, des fois, ris. Seigneur, pardon. Guéris mes préjugés. Guéris mes expériences et aide-moi à avoir le cœur de l'autre que tu aimes, pour lequel tu es mort pour lui, pour elle. Seigneur, accorde-nous que ces obstacles puissent tomber entre nous. Guéris nos cœurs de des souvenirs passés de gens qui nous ont offensés, pour lesquels on a inclus toute une culture pour ce geste-là, pour lequel on garde une rancune, une vision négative. Guéris ces préjugés, guéris ces paroles, ces souvenirs, qu'ils puissent être adoucis par l'amour de Jésus. Qui lui m'a aimé quand j'étais pas aimable, qui lui m'a aimé quand j'allais parler contre lui, quand j'allais le trahir, quand j'allais avoir honte de lui, et qu'il savait et qu'il m'a aimé quand même. Merci, Seigneur, d'avoir passé par-dessus, de m'aimer. Donne-moi cet amour pour l'autre. C'est juste toi qui peux changer mon cœur. Et Seigneur, je te demande cette guérison. Je te demande ce pardon. Je te demande ton aide. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.